VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
19h à Abidjan, 20h à Tunis, Bangui et Kinshasa. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Dans l'actualité africaine, plus de 2000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Tunis contre un projet de loi proposé par la présidence prévoyant l'amnistie des faits de corruption en échange d'un dédommagement. La corruption ne va pas passer, nous n'allons pas céder, ont scandé les protestataires réunis à l'appel du collectif Je ne pardonnerai pas, ainsi que de 52 ONG tunisiennes et internationales et des partis de l'opposition. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a fixé au 16 juillet prochain le premier tour des élections législatives au Congo-Brazzaville, selon un décret présidentiel publié aujourd'hui. Donc le premier tour le 16 juillet, le second tour devrait avoir lieu le 30 juillet. Au moins 2 blessés graves par balle en Côte d'Ivoire. L'un des blessés a été enregistré au nord de Boaké et l'autre à Korogo où les mutins refusent de regagner leur caserne. Mais le calme est revenu à Abidjan, comme nous le raconte notre correspondante Narita Namasté.
En Côte d'Ivoire, la tension n'est pas tombée après la déclaration du chef d'état-major. Hier, c'est les antennes de la télévision nationale qui a invité l'ensemble des militaires à respecter le cadre réglementaire du travail et à faire preuve de discipline. Il a également fait une mise en garde de tout militaire qui se livrait à des actes répréhensifs à de sévères sanctions. Une réunion s'est tenue dans les différentes casernes et depuis 3h du matin à Boaké, des tirs ont repris. Ils ont occupé les deux corridors. Et à Abidjan également, depuis 6h du matin, le plus grand camp d'Akodo, il y avait des tirs. Et les tirs se sont arrêtés 2h après. Voilà, l'accès des villes de Boaké, de Daloa, de Korogo. Korogo qui est au nord du pays. Daloa, c'est dans l'ouest. Donc, l'accès de ces zones-là sont bloqués par les mutins. Depuis ce matin, Abidjan, depuis 8h déjà, Abidjan, la situation est un peu calme. Voilà, les gens vont à leurs occupations, on n'entend plus ici, dans le camp d'Akodo. Les militaires sont à l'intérieur. Voilà, c'est un peu ça la situation à Abidjan ce matin.
Narita Namasté, notre correspondante à Abidjan. Plusieurs civils et un casque bleu ont été tués à Bangassou, en Centrafrique. Le camp de la force onusienne a été attaqué cette nuit par une coalition comprenant des éléments anti-Balaka. En RDC, l'élection présidentielle prévue pour fin 2017 afin de désigner un successeur à Joseph Kabila risque d'être reportée en raison de contraintes logistiques et des violences dans le Kasaï, a annoncé hier Corneille Nangaa, le président de la CENI. RDC toujours, l'épidémie d'Ebola annoncée hier par les autorités de Kinshasa devrait pouvoir être contrôlée rapidement, a affirmé aujourd'hui une responsable de l'OMS qui a félicité les autorités pour leur réponse rapide face à cette nouvelle épidémie. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a mis en place hier une commission chargée de proposer dans un délai de 6 mois une révision de la Constitution qui pourrait notamment inclure la fin de la limitation des mandats présidentiels. Et puis au Soudan du Sud, le redouté chef de l'armée Paul Malong démite ses fonctions mardi par le président Salva Kiir, a assuré aujourd'hui à son retour Djouba, à la demande des autorités, n'avoir jamais eu l'intention de se rebeller.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le reste de l'actualité dans le monde, une vague de cyberattaques sans précédent a frappé depuis hier une centaine de pays, affectant le fonctionnement de nombreuses entreprises, d'organisations dont les hôpitaux britanniques, le constructeur français Renault et le système bancaire russe. Des dizaines de milliers d'ordinateurs sont affectés par un logiciel de rançon qui demande $300 en échange de la restitution de vos fichiers. Et puis ici, aux États-Unis, Donald Trump a déclaré vouloir choisir un nouveau chef pour le FBI très rapidement. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point avec l'information. Pour plus de détails, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voafrique.com et sur notre page Facebook, bien sûr. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'inimitable émission interactive de VOA Afrique, le monde au féminin, pour un tour d'horizon de l'accès des filles aux filières et métiers scientifiques en Afrique et ailleurs. Et avec moi dans le studio, Gaston Mandatane-Guerekata, professeur des universités et homme politique centrafricain, membre du conseil des chercheurs africains-américains en sciences mathématiques, membre de l'Académie mondiale des sciences, je l'ai traduit en français, ou l'Académie des sciences pour le monde en développement, hein, la World Academy of Science. Professeur, c'est un honneur vraiment de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'être ici.
Merci beaucoup.
Alors, vous êtes également, je ne vais pas dire tout ce que vous êtes parce que vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes doyen associé aux études de premier cycle à Morgan State University à Baltimore. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur en France.
Tout à fait.
Vous êtes commandeur de l'Ordre du Mérite en Centrafrique.
Ouais.
Et je vais vous poser tout de suite cette question. La Légion d'honneur, les chevalières, on en a quelques-unes quand même.
Ah oui, bien sûr.
Ouais, non, ouais.
C'est un honneur qui est donné pas seulement aux hommes, hein, c'est aussi aux femmes.
Il y a toujours une majorité d'hommes quand même, non?
Ça c'est sûr,
ouais.
Ça c'est sûr, hélas. Ouais.
Oui.
Voilà.
Alors, je reviens sur l'Académie mondiale des sciences. Hein. C'est une académie scientifique fondée sur le mérite qui réunit 1150 chercheurs de dizaines de pays. Son objectif principal est de promouvoir la capacité scientifique et l'excellence pour le développement durable dans le Sud. Son siège est dans les locaux du Centre international Abdus Salam pour la physique théorique à Trieste, en Italie.
C'est ça.
Et alors, tout à l'heure, on a communiqué avec ces formidables produits, n'est-ce pas, de la technologie, par SMS, vous et moi.
Oui.
Et je vous ai posé une question, je vous ai demandé combien il y avait justement de femmes membres dans ces 1150. Vous m'avez répondu, il y en a 137, soit 11,5%, vous avez fait le calcul pour moi, merci beaucoup, en tant que professeur de mathématiques. 137 sur 1150, c'est pas mal, c'est peu, ça va augmenter, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est peu. Peut-être que c'est l'occasion que nous puissions discuter un peu des raisons qui font que il y a moins de femmes dans les filières scientifiques. Il faut tout de suite dire qu'il n'y a pas de différence biologique. Hein. Ce n'est pas que les hommes ont plus de capacité à faire les sciences. Les raisons sont davantage donc des facteurs sociaux et environnementaux.
Ouais.
Par exemple, il y a ces stéréotypes qu'on véhicule, qu'on entretient. Disons que les femmes ne sont pas faites pour les sciences ou pour les mathématiques en général. Il y a des raisons sociales, par exemple. En Afrique, essentiellement, les gens voient les femmes davantage comme, n'est-ce pas, responsables de maisons, de familles. Et donc, cela, ça les repousse un peu des filières scientifiques. Parce que, ça demande beaucoup, hein, faire la science, étudier la science. Il faut se consacrer à cela de manière continue, régulière. Mais quand on a des tâches domestiques, familiales, qui prennent tout votre temps,
c'est
la grossesse par exemple,
ouais,
etc., tout cela fait que
ça ajoute, hein.
Voilà.
Oui, ça ajoute beaucoup. À ce propos, est-ce que vous pouvez nous citer justement des grands noms de femmes scientifiques?
Absolument. Disons, le premier grand nom, c'est Marie Curie. Là, c'est vraiment un phénomène. Hein. Cette dame a deux prix Nobel. D'abord, avant de se marier, elle avait un prix Nobel de physique. Ensuite, quand elle s'est mariée avec Curie, hein, de manière conjointe, les deux, monsieur et madame, ont eu un prix Nobel de chimie. Donc, elle a deux prix Nobel, physique et chimie. Sa fille, n'est-ce pas, Irène Curie, qui s'est mariée avec un de ses assistants, aussi a eu un prix Nobel de chimie. Ensuite, sa petite fille est maintenant une des grandes physiciennes en France, etc. Donc c'est vraiment une famille. Dans une famille, il y a trois femmes et trois prix Nobel.
Ouais, intéressant.
Ça c'est le plus grand nom, n'est-ce pas, de femmes dans la science. De nos jours, par exemple aux États-Unis, nous avons une dame qui s'appelle le docteur May Jemison, qui est un médecin et astronaute de la NASA. C'est la première femme noire, n'est-ce pas, à aller dans l'espace. En 1992, elle avait utilisé donc la navette spatiale Endeavour pour aller donc dans l'espace. Nous avons aussi notre dame noire ici, docteur Shirley Jackson, qui a eu son doctorat en physique à MIT et qui a eu la plus grande distinction honorifique scientifique des États-Unis, donc la médaille d'or des sciences. Ça, c'est une dame. Elle a été présidente aussi d'université pendant longtemps. Voilà deux grands noms pour les Noirs, en tout cas ici aux États-Unis.
Voilà. On espère que ça va inspirer beaucoup de jeunes femmes.
Il le faut. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui manque chez nous, c'est le role model, comme les Américains disent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes scientifiques qui sont très bonnes, mais qu'on n'expose pas pour donner, n'est-ce pas, la vocation aux plus jeunes. Mais dans mon domaine, par exemple, la mathématique, il y a deux femmes noires africaines qui sont brillantes. Vous connaissez le African Institute of Mathematical Science. C'est un institut qui a été créé par un Béninois qui est au Canada, avec l'aide de l'Allemagne, fonds de recherche allemand et l'Afrique du Sud, pour former ce qu'ils appellent les prochains Einstein africains. Voilà, cet institut AMS, il y a à Dakar, la directrice, c'est une mathématicienne qui est ici à Penn State, à Aïssa Ouad, qui est brillante. Récemment, donc, la chaire de mathématiques de AMS Cameroun est détenue par le professeur Gisèle Mofou, qui est une brillante mathématicienne aussi, qui était à l'Université des Antilles en Guadeloupe.
Merci, professeur. On revient après ça.
Dans la presse.
Quatorze adolescentes ont contesté devant la justice du Malawi un règlement scolaire qui punit d'un an d'exclusion et d'une amende les jeunes filles enceintes ainsi que le père de leur enfant pendant leur scolarité. En 2016, ces écolières de Nkatabei avaient été condamnées à des amendes et suspendues de l'école. Le tribunal avait même ordonné le placement en détention des élèves et des parents qui n'avaient pas pu payer sur le champ leurs amendes. Les jeunes femmes ont fait appel devant la haute cour de Mzuzu pour demander l'annulation de ces décisions. Une deuxième petite nouvelle, le Ghana veut rendre l'éducation gratuite pour tous les adolescents, une réforme qui pourrait changer la vie de beaucoup de filles encore trop peu scolarisées. L'accès à l'enseignement secondaire dépend surtout de la capacité des parents à pouvoir payer les frais de scolarité. Le président Akufo-Addo a dit que cette réforme permettrait d'accélérer le développement du pays. Il a dit une excellente éducation pour les filles est essentielle. Si nous voulons éradiquer la pauvreté, l'ignorance et la maladie, alors il faut savoir que de nouvelles écoles vont ouvrir pour les nouveaux candidats et seulement 44% des filles sont scolarisées dans le secondaire au Ghana selon l'UNICEF. Mais professeur, la gratuité de l'école publique, on est toujours un petit peu choqué quand on apprend que l'école publique dans beaucoup de pays d'Afrique, elle est même pas gratuite, alors qu'elle est gratuite ici, aux États-Unis et dans beaucoup de pays occidentaux finalement.
Oui, c'est vrai. En fait, je crois que c'est la faillite des États. Les États n'ont plus les moyens, n'est-ce pas, de soutenir donc les écoles publiques. C'est ça la véritable raison. Je crois que les ressources sont peut-être utilisées ailleurs davantage que dans l'éducation. Et c'est dommage parce que moi, je fais quelques voyages en Afrique, dans les universités. Et récemment, j'étais à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Je vois comment les jeunes Africains sont avides de savoir vraiment, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à avoir des performances incroyables. Dans mon université ici, en biologie par exemple, les meilleurs étudiants sont des étudiants africains, des filles. Par exemple, là, on a organisé ce qu'on appelle Honors Convocation il y a deux semaines. On a donné les quatre meilleurs étudiants qui ont eu 4 sur 4 de GPA sur 7 semestres consécutifs, sur les 4, 2 sont africaines. Des filles qui sont venues d'Afrique, et puis, voilà, qui performent très très bien ici. Donc c'est ça, c'est dommage parce que les jeunes africains, ils veulent apprendre, ils veulent aller loin dans le savoir. En tout cas, les sciences en particulier, je crois qu'ils réussissent très bien.
Voilà. Et en République centrafricaine, vous avez, je sais pas, je vais pas vous demander des chiffres, bien que vous soyez professeur de maths, mais vous avez un petit peu une idée de la participation des filles dans le domaine scolaire.
Je n'ai pas de chiffres précis, mais s'il y a des chiffres, ils sont vraiment lamentables, il ne vaut pas la peine d'en parler. Par exemple, en mathématiques, il n'y a aucune femme, aucune fille dans l'université.
Ah bon ?
Même pas dans le corps professoral. Il y a une russe, mais d'origine, mais il n'y a pas d'Africaine. La seule personne que je connais, j'ai rencontré l'année dernière une fille qui est en train de faire son doctorat en Chine, en maths appliquées, ce sera la première. Et c'est justement dans ce cadre-là que l'Académie mondiale pour les sciences m'a nommé récemment TWAS, Research Professor, donc pour aller former donc les docteurs en maths dans mon pays. Voilà.
Félicitations.
Merci.
C'est formidable. Et là, dans ce cadre-là, vous allez peut-être inciter un peu plus de jeunes filles.
Absolument. Absolument. En fait, je vais même aller dans des lycées, rencontrer les filles, discuter avec elles et essayer de les encourager donc à aller dans les filières scientifiques, en mathématiques en particulier.
Parole de femme.
Le taux de grossesse en milieu scolaire a fortement augmenté au Bénin, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé. On l'écoute.
Elsa est aujourd'hui vendeuse de pain dans l'un des plus grands marchés du Bénin, le marché d'Antopa. Elle aurait voulu être cadre de l'administration publique. À 32 ans, elle est mère d'une fille de 18 ans. Elle avait eu à 14 ans, alors qu'elle se préparait pour décrocher son certificat d'études primaires.
Si un homme vous aime vraiment, il va prendre la patience. C'est pas quand vous faites l'amour avec un homme que ça veut dire qu'il vous aime. C'est facile, parce qu'il en aura assez un jour, il va vous jeter comme un torchon.
Comme Elsa, bien de jeunes filles sont forcées à une maternité précoce, malgré les nombreux efforts consentis par l'ensemble des acteurs du système éducatif et même au-delà. Selon Éducation, par exemple, on dénombre chaque année une moyenne de 2000 grossesses dans tout le Bénin, avec assez d'enseignants en prison pour harcèlement sexuel, viol ou tentative d'avortement. Pour Sandra, journaliste de profession, à côté de l'éducation, les filles doivent pouvoir cheminer avec les valeurs qui leur sont inculquées.
Lorsqu'on n'a pas une éducation assise sur certaines valeurs, il va de soi qu'on peut quitter la vision qui était établi par rapport à ce que nous devons faire. À côté de l'éducation, il y a également l'influence, parce que le tout, ce n'est pas de dire des interdits aux enfants, mais c'est de forger leur mental de telle sorte que, même quand les parents ne sont pas là, qu'elles puissent être habitées par les valeurs qui ont été promues depuis la base.
Afin de freiner l'élan du phénomène, il est interdit aux filles de se tresser, de porter des tenues sexy et même de venir à l'école avec des téléphones. Doris Dietongoudou fait du coaching scolaire. Elle pense que mettre à la portée des acteurs impliqués dans cette histoire les rudiments nécessaires paraît primordial.
À travers le coaching, nous montrons aux adolescents que même à cette étape de la vie, il serait plus judicieux pour eux de prendre leur temps, d'avoir l'information juste et de penser plus à leur avenir qu'au plaisir immédiat. Aussi avec les parents, nous essayons de voir comment est-ce qu'ils peuvent se servir des centres d'intérêt de leurs enfants pour mieux les suivre.
Voilà, c'était un reportage de Ginette Fleuradandé à Cotonou. Professeur, votre réaction sur ces questions-là, les problèmes de grossesse précoce, de mariage forcé. On note quand même qu'on a aucun mot sur la responsabilité du garçon ou de l'homme qui met enceinte la jeune fille. On parle beaucoup de la responsabilité de la fille. On aimerait bien connaître celle du garçon ou de l'homme, parce que la fille, elle est mineure.
Ah oui, absolument. Non, je crois que sur ce plan-là, nous sommes très en arrière, en Afrique. Dans le milieu scolaire, on voit comment les filles sont harcelées sexuellement pour pouvoir passer les examens. Les professeurs les poussent, n'est-ce pas, à des actes qui sont pas, disons, acceptées par la loi. Et je crois aussi que les autorités ne sont pas assez sévères sur ces questions-là. Ici, aux États-Unis, c'est vraiment le contraire. Hein. Dans les universités, les écoles, l'harcèlement sexuel, hein, c'est pas, ça abandonne pas. Vous perdez votre boulot tout de suite.
Oui, oui.
Et ça, je crois qu'il faut vraiment que les autorités en Afrique puissent se pencher dessus. Hein. C'est quand même l'avenir du pays, l'avenir des femmes, des filles africaines, c'est l'avenir de l'Afrique. Mmh. Hein. Elles ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes, et leur participation en sciences en particulier va être un véritable moteur pour le développement de l'Afrique. Il faut penser à cela.
Si jeunesse pouvait.
Écoutez Le Monde au féminin avec comme invité le professeur Gaston Mandatan Guerica. Alors au Tchad, les enfants réfugiés centrafricains de quatre camps du Logone oriental quittent les salles de classe pour assurer leur existence quotidienne. Notre correspondant André Kodmadjingar les a rencontrés.
Salut. Il est 11h, heure locale. Nous sommes dans la salle du cours préparatoire moyen de l'école communautaire du camp de Gondje. Dans cet établissement, le taux de fréquentation est en baisse. Le directeur de la dite école, Mandiganouji André, donne les chiffres comparatifs de ses élèves.
L'année passée, j'ai 1230. Cette année, je me retrouve avec 628 élèves, dont 289 garçons et 238 filles. On a 8 bâtiments de 32 salles. Mais on fonctionne avec 13 salles pour le moment.
Le secrétaire général du camp de Gondje, Dunkel Armand, explique les raisons de cette déperdition scolaire.
Selon les parents, c'est la réduction de vivres et puis la suspension de vivres dans d'autres catégories qui a fait que les enfants n'ont pas pu avoir la nourriture nécessaire pour leur survie. Donc eux-mêmes ils se lancent à la recherche des pailles ou des fagots pour aller vendre afin de subvenir à leurs besoins.
L'assistant en éducation de l'ONG Accra, Serferbe Blaise, confirme le faible taux de fréquentation des élèves dans les écoles de trois autres camps, notamment Amboko, Dossey et Doholo.
Le nombre est presque à la moitié de l'année passée. Et là, ce n'est pas seulement les écoles du camp qui sont touchées. Sur les 136 écoles que le département abrite, les 33 écoles publiques sont fermées.
Moïmoune Rumvictor, proviseur du lycée mixte de Timbiri dans le département de la Niapende où fréquentent les élèves réfugiés et autochtones, nous fait le point.
L'année qui était presque blanche, le gouvernement a tout fait pour que l'année ne soit pas blanche. Et quand on a repris en janvier, pour beaucoup d'élèves, c'est que l'année est déjà passée et que ça ne sert absolument à rien de venir perdre le temps ici. Donc il y en a qui reviennent, mais ça ne dépasse même pas la moitié des 700 élèves que nous avons prévus. Au début. En terminale, je vous dis que je suis avec 7 élèves seulement. C'est presque chaque jour que le nombre des élèves diminue.
André Kodmadjingar Goré dans le département de la Niapende pour VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Professeur, vous l'avez entendu dans ce reportage, encore des obstacles. Hein, finalement, c'est décidément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faut être motivé quand même en Afrique, hein, avec tous ces obstacles. Hein.
Absolument. Et bien, là, vous parlez de Niapende, c'est une région proche de là où je suis né. Hein. Je suis né dans Niapende. Alors, je vois très bien donc le malheur de ces jeunes-là. Mais le cas de la RCA, si vous voulez qu'on en parle.
Oui.
Mais vous savez, pendant la période de crise militaro-politique qui a commencé en 2013. Eh ben, les rebelles ont occupé pratiquement toutes les écoles.
Et encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, c'est le cas. Voilà. Mm-hmm. Et puis bon, bien sûr aussi, les jeunes filles qui sont livrées à des l'esclavage sexuel dans ces zones de rébellion, tout cela est extrêmement grave. Je crois que il faut vraiment faire appel à pas seulement la communauté internationale, je crois que même au plan national, on peut déjà, si on supprimait un peu ces différentes célébrations de je ne sais quoi, pratiquement tous les mois, si on faisait moins de missions à l'étranger dont les retombées ne sont pas toujours positives, et qu'on consacrait cet argent-là à l'éducation des jeunes, c'est-à-dire l'avenir du pays, je crois que ce serait une bonne chose.
Professeur, vous savez par exemple qu'en Occident, aux États-Unis c'est le cas, on a beaucoup de femmes médecins, on a beaucoup de femmes institutrices, énormément, et il me semble qu'en Afrique c'est encore le contraire, beaucoup de médecins hommes, beaucoup de médecins instituteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renverser un petit peu cela, avoir quelque chose d'un peu plus équilibré?
Je crois que c'est vraiment une politique globale qu'il faut mener. Les véritables raisons, c'est quoi? C'est des raisons, c'est des facteurs sociaux et environnementaux qui font qu'on a moins de femmes qui vont dans ces filières-là. Il faut donc une politique d'encouragement. Par exemple, là, je ne sais pas si vous le savez, ici, un exemple ici, nous avons dans mon université un programme qui s'appelle Equation of Peace. Qui est dirigé par mon collègue, le professeur Farley. C'est un programme qui permet de faire venir, ici pour 4 mois à mon université, des femmes mathématiciennes des pays en crise, comme l'Afghanistan, l'Irak, etc. Et la RCA est dans ce cas-là. Donc, voilà un peu une manière d'encourager donc ces femmes-là par des bourses spéciales, destiné uniquement pour les femmes et des séminaires de formation, la présentation, n'est-ce pas, des role models, c'est-à-dire des femmes qui ont réussi dans ce milieu-là, qui pourraient partager leurs expériences personnelles avec ces jeunes pour les encourager. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour que on puisse avoir un peu plus de femmes dans les filières scientifiques, et c'est possible parce que bon, elles ont les mêmes capacités que les garçons, et même encore parfois sont, quand elles y sont, elles sont vraiment motivées. En 2001 par exemple, dans mon cours de topologie, j'avais 6 étudiants, un cours avancé de 4e année. Sur les 6, tenez-vous bien, c'était tous des filles. Brillantes.
Ouais, ouais, ouais.
6 étudiants, 6 filles.
Ouais. Vous êtes présenté aux élections en 2016. Si vous refaites ça, vous allez le refaire la prochaine fois, oui?
Je pense pas à ça en ce moment. Je crois que je fais des mathématiques, je vais former les jeunes, former les docteurs en mathématiques en Afrique. Là, je vais au Sénégal aussi le mois prochain, à l'université tchèque Anta Diop. C'est ce que je vais faire maintenant.
Merci beaucoup. Merci, professeur. Un grand merci à nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.